Dion Gokan, lauréate du prix national d'excellence de la meilleure ivoirienne de la diaspora 2024, se définit comme une caféologue. Sa mission, redonner ses lettres de noblesse au café ivoirien grâce à des produits innovants et un rituel unique. Avec une approche d'économie circulaire, elle valorise la chaîne de valeur du café et soutient les producteurs. Découvrez ses motivations, la vision qu'elle a pour le café de Côte d'Ivoire et bien d'autres choses dans cet entretien réalisé par Jean-Mélène Bitti. L'entrevue
Radio de la Paix. Maria Diongouken, bonjour. Vous êtes ?
Je suis caféologue, CEO de la marque Rituel Café et lauréate du prix Marie-Laure d'Ivoire et récemment meilleur ivoirien de la diaspora, prix national d'excellence.
Alors, caféologue, comment pouvez-vous définir ce thème ?
La caféologie, c'est la science du café. C'est l'art de la dégustation visuelle, olfactive et gustative des cafés fins de terroir. Donc, c'est la discipline qui va travailler tout le potentiel de l'arbre café, depuis l'arbre jusqu'à la tasse.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure de la promotion du café en Côte d'Ivoire et en dehors du pays?
C'est parce que justement, j'avais vu que le café ivoirien n'était pas suffisamment promu comparé au cacao et que notre rang au niveau mondial avait décliné. On était 3e en 1959. Aujourd'hui, on est à la 17e place et au niveau africain, on est à la 4e place. Et je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose. Le cacao, on est premier depuis des décennies et des décennies. Nous, notre production, elle a rétréci. Les gens se sont découragés. On n'avait pas suffisamment d'acteurs aussi qui étaient formés dans la transformation du café. Je vis à l'étranger. Tous ces éléments-là m'ont amené justement à faire la promotion du café ivoirien sur le plan national et international.
Alors, quel a été votre parcours avant de vous lancer dans la promotion, la vulgarisation du café ivoirien ?
En fait, moi, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire. Ensuite, je suis partie au Maroc dans une école de commerce. Ensuite, je suis revenue un an en Côte d'Ivoire parce que je voulais me lancer dans l'audit, mais j'avais envie de savoir ce que c'était l'audit pour savoir si mon choix allait être le bon. Donc, j'ai fait un stage dans un cabinet d'audit pendant 7 mois et j'étais convaincue de la discipline que je voulais faire. Je suis allée me former, j'ai passé les concours, j'ai été admise pour faire un master en audit en France. Ensuite, l'audit ne m'a plus passionnée. Je suis allée en stratégie d'entreprise et en stratégie à l'international et après ça, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises et mon dernier poste pendant une dizaine d'années, c'était comme approvisionneur acheteur dans la grande distribution de l'optique lunetterie. Donc, j'étais en gestion de stock, gestion administration des ventes et tout ça. Et j'étais en relation avec les fournisseurs et tout. Donc, pourquoi je donne cette précision? Parce que quand j'ai voulu me lancer à mon propre compte, après, j'en ai eu marre, je voulais me lancer dans le café. Et quand j'ai voulu me lancer dans le café, je me suis formée dans le café pour pouvoir maîtriser, en fait, tout le parcours du café depuis l'arbre jusqu'à la tasse. Donc, je me suis formée dans le café pendant 3 ans pour être au niveau où je suis et pouvoir faire la promotion du café ivoirien et africain sur le plan national et international.
Avec tout ce background, vous avez décidé de faire la promotion du café. Alors, comment avez-vous découvert votre passion pour le café ? Pourquoi le café ? On aurait dû prendre le cacao, le mil, le sorgho.
Ma passion est venue d'une frustration. En fait, quand j'ai voulu me lancer à mon propre compte, j'ai voulu être dans une activité où j'allais apporter du sens, où j'allais révolutionner les choses, où j'allais changer les mentalités. J'ai pensé à mon pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, en pensant à mon pays, j'ai regardé dans quoi est-ce que la Côte d'Ivoire était compétente. C'est dans l'agriculture. Et dans l'agriculture, quelles sont les cultures que je pouvais choisir. Donc j'ai vu qu'il y avait le cacao, j'ai vu qu'il y avait le café. Mais j'ai vu qu'on avait régressé dans le café et donc j'ai décidé de choisir le café. Sachant que je consommais même pas de café, je ne savais pas ce que c'était. Donc je suis allée à un salon du café et en allant à ce salon du café et que j'ai pas vu mon pays présent à ce salon, ça m'a fait une deuxième gifle en fait. J'ai été 2 fois plus frustrée et c'est là où j'ai décidé que ce serait le café parce que justement, on peut pas parler de café à l'international sans que la Côte d'Ivoire ne soit présente et que moi, j'allais faire en sorte qu'on puisse parler de la Côte d'Ivoire dans le domaine du café et que tout puisse changer. Voilà comment j'ai choisi le café.
Alors, vous choisissez le café, c'est-à-dire que vous rentrez dans un secteur que vous ne maîtrisez pas forcément. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées au démarrage de votre activité ?
Moi, quand j'ai décidé de rentrer dans le café, je suis allée me former parce que dans mon parcours, quand je devais choisir de me spécialiser en audit, je suis allée dans un cabinet d'audit pendant 7 mois pour voir ce que c'était l'audit, est-ce que ça me plairait ou pas. C'était la même chose pour le café. Quand j'ai décidé de me lancer dans le café, je suis allée me former dans le café. j'ai pris des cours de caféologie pour que je sois crédible. Parce que pour moi, c'est très important d'être crédible dans ce qu'on veut faire. Je n'ai pas décidé de me lancer dans le café sans être formée dans le café. Donc, je ne suis pas rentrée dans le café sans formation. Et en plus de ça, moi, je viens d'une école de commerce. J'ai fait une école de stratégie. Donc, je savais comment aborder le business. J'ai fonctionné un peu comme les MVP. Quand les gens de la technique doivent créer un produit technologique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le faire tester, en fait, pour voir si ça répond aux besoins de la population. Et à ce moment-là, ils vont l'adapter et réparer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai testé ce que je voulais faire. Et quand j'ai vu que ça répondait aux besoins et qu'il y avait une vraie demande, il y avait une curiosité, là, j'ai lancé mon entreprise.
Vous avez lancé votre entreprise. C'est un secteur qui n'est pas forcément le secteur où les femmes sont beaucoup représentées. Et vous décidez d'entrer dans ce secteur-là où il y a de grandes filles. Est-ce qu'on peut savoir comment vous avez réussi à faire connaître et à faire fidéliser votre produit ?
C'est très bien que vous me posiez cette question. Je me suis formée pour être crédible dans ce domaine-là. Parce qu'effectivement, étant une femme et venant dans ce domaine, les gens tout de suite ont des préjugés. Et comment moi j'ai réussi à m'imposer dans ce domaine, c'est par mes connaissances, c'est par mes compétences, c'est par mon expertise, c'est par mon expérience. Et cette expérience a parlé d'elle-même. Et du coup, les gens ont commencé à m'écouter. Et comme j'ai commencé à faire bouger les lignes et tout, parce que j'étais déterminée, puisque ma formation elle a coûté quand même de l'argent, j'ai quitté tout un travail, j'ai quitté tout mon confort. C'est pour dire à quel point j'étais déterminée et motivée. Et puis la passion est venue après. J'étais pas passionnée de café quand je suis rentrée dans le café. Donc la passion s'étant mêlée à tout ceci, c'était devenu plus simple de me faire écouter. Et ma démarche aussi, l'aspect que j'aborde dans le café, tout le monde ne l'aborde pas de cette façon-là. Je suis seule à aborder, parce que moi, je suis engagée sur une économie solidaire et circulaire, l'économie circulaire du café. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Travailler sur toute la chaîne de valeur du café, il n'y en a presque pas qui le font. Et puis, aller frapper aux portes comme celle du CNRA, par exemple, pour pouvoir travailler le café qu'ils ont produit, tout le monde me disait, mais il faut laisser tomber parce que ça ne va rien t'apporter. Je dis, non, je suis désolée. Donc, tout ça, ça fait que, effectivement, les gens sont obligés de m'écouter parce que je les ai obligés à m'écouter. Et puis je pense que quand j'aborde ou quand je vais sur les salons, quand je vais sur les émissions, ça intéresse les gens de comprendre le café comme on ne leur avait jamais expliqué avant.
Vous venez de parler d'économie circulaire dans le domaine du café. Alors quelles sont les innovations que vous avez apportées au marché du café en Côte d'Ivoire et ailleurs ?
Déjà en Côte d'Ivoire, j'ai montré qu'on pouvait utiliser les déchets post-récolte et post-production pour en faire des matières premières. Donc en récolte, on va utiliser la pulpe et la peau de la cerise de café qui n'était pas utilisée et dont nous sommes les seuls à commercialiser ici en Côte d'Ivoire. Ensuite, j'ai montré qu'on pouvait utiliser les déchets post-production comme le marc de café que nous on utilise en produit fini. Voilà, donc c'était pas pour des personnes qui étaient dans le domaine du café, en tout cas le créneau sur lequel je suis, il n'y en avait pas. Donc voilà comment j'ai montré les produits innovants. J'ai montré que le café pouvait s'introduire dans notre quotidien. Donc j'ai créé des confitures, des gelées, des sirops de café. Donc, quand les gens viennent et qu'ils posent des questions, les gens deviennent un peu, je veux dire, ils oublient tous les réflexes ou toutes les connaissances qu'ils avaient. Ils voient une confiture de café, ils se demandent comment on consomme. Je dis, mais comment vous consommez une confiture ? Ils disent, mais je la mets sur le pain. Je dis, ben, c'est la même chose en fait. C'est pas parce que ça s'appelle café qu'on peut plus faire la même chose. Quand je demande un sirop, on leur montre le sirop. Mais comment ça se boit le sirop ? Je dis, mais comment vous buvez un sirop ? Mais je mets de l'eau et des glaçons. Je dis, ben, c'est la même chose. Vous mettez de l'eau et des glaçons. Le miel de fleur de caféier. Nous, on produit notre propre miel, on a nos ruches, hein, qu'on a placées dans les plantations de café. Ils nous demandent, mais il a obtenu comment votre miel ? Je dis, mais comment on obtient le miel ? Mais c'est les abeilles. Je dis, mais c'est la même chose, c'est les abeilles. Donc, du coup, ça fait que les gens ont commencé à s'interroger et puis ils se sont rendus compte que des fois, ils nous posaient des questions qui n'étaient pas très pertinentes, en fait, et que ils ignoraient beaucoup de choses sur le café. Et là, ça montre aux producteurs qu'ils peuvent avoir plusieurs revenus à partir du simple arbre caféier. Voilà comment les gens ont perçu. Ils étaient contents, ils étaient étonnés, ils étaient surpris et voilà.
Alors, vous parliez de producteurs. Justement, quel est l'impact de votre entreprise sur les producteurs de café locaux ? Parce que vous avez parlé de la chaîne de production depuis les plantations jusqu'à la commercialisation et la transformation.
Déjà, il y a plusieurs aspects. Moi, je mets en avant la traçabilité. Quand vous allez regarder mes packaging de café, vous allez voir qu'on voit l'origine de la plantation, on voit le producteur qui l'a travaillé, on voit le process qui a été fait. Donc déjà, le producteur est mis en avant. Il est au centre de notre activité. Ensuite, le producteur producteur, on le forme, nous, pour pouvoir produire un café de qualité. Mais cette qualité-là, elle a un coût. Moi, quand j'ai commencé dans le café était à 700 francs CFA en Côte d'Ivoire. Donc, à 700 francs CFA, moi, je l'achetais à 1000 francs CFA avec certains producteurs. Donc, j'ai des prix qui vont de 1000 francs à 3000 francs CFA le kilo. Déjà, le producteur, il est valorisé à ce niveau-là. Ensuite, on lui montre qu'il peut utiliser d'autres aspects de l'arbre caféier pour en faire des produits supplémentaires. Donc, ça impacte aussi son niveau de vie, ça impacte aussi son activité. Et le fait d'acheter plus cher, justement, ça le valorise, lui, parce qu'il est reconnu. C'est un prix juste qui lui est fixé et c'est reconnu. Et quand on lui donne notre cahier des charges, le producteur, lui, se forme maintenant. Et il y a certains producteurs qu'on accompagne dans la transformation parce qu'on transforme leur café pour qu'ils puissent les vendre eux-mêmes parce que c'est avec le produit transformé qu'on a de la valorisation. Donc, voilà ce que ça apporte aux producteurs. Maintenant, ceux qui ne travaillent pas encore avec nous, il faut qu'ils répondent à certains critères pour pouvoir travailler avec nous.
Lesquels ?
Justement, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils fassent un café de qualité. Il faut qu'au niveau récolte d'abord qu'ils utilisent les bonnes pratiques, qu'ils recueillent tout le café qui est bien mûr cerise par cerise au lieu de nous prendre du café cerise verte, café cerise rouge. Ensuite, au moment de sécher le café, il faut qu'ils respectent certaines conditions. Il y a tout un tri à faire tout au long du processus récolte jusqu'au café vert. Il faut qu'ils respectent ces conditions-là. Ensuite, d'abord, il faut que le champ soit bien entretenu et tout pour éviter que ça impacte le résultat en tasse parce que nous, on leur montre que chacun des qu'ils ont. Et c'est ce qui est bien dans la caféologie, c'est que chaque acteur a son importance. Parce que si le producteur a mal fait son travail, si le transporteur a mal fait son travail, si le torréfacteur a mal fait son travail, celui qui sert la boisson à la fin, il va avoir des vilains résultats en tasse et ça ne va pas l'arranger. Donc voilà comment ça impacte les producteurs. Et il y a des nouveaux qui veulent travailler avec nous. Il y a des gens qui avaient abandonné leur plantation, qui se remettent au café parce qu'ils voient maintenant le potentiel de tout l'arbre caféier. Donc voilà les impacts que ça a eu sur les producteurs. Après, maintenant, quand je vais parler de l'obtenteur CNRA, qui lui a créé ce café Arabusta, qui était mis en avant, mais qui n'était pas suffisamment mis en avant. Aujourd'hui, ils ont de la demande par rapport à la promotion que j'en fais. Ils sont en train de créer des choses qu'il faut pour pouvoir répondre à la demande. Moi, j'estime que ça vient aussi du travail que j'ai fait. Donc, voilà des impacts que ça a. Et on parle du café de Côte d'Ivoire au plan international parce qu'on est présent sur les grands rendez-vous internationaux. Et quand on a un ministère de la culture et de la francophonie, par exemple, qui m'a prise comme prestataire pour pouvoir faire la promotion du café, le café commence à rentrer dans d'autres aspects de l'économie, de la vie de la Côte d'Ivoire, que ce soit la culture, que ce soit le tourisme. Donc, ça impacte tout le monde, en fait.
Quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans ce secteur-là?
J'invite les jeunes femmes, justement, à se lancer dans le café. La femme a une certaine sensibilité. On a vu l'exemple au Rwanda. C'est les femmes qui ont fait en sorte que cette activité a été relancée en fait. Le café n'existait presque plus au Rwanda et c'est les femmes qui ont pris ça d'assaut. Elles sont présentes très fortement en majorité dans ce secteur d'activité-là. Donc moi j'incite les jeunes filles à se lancer dans le café parce que avec leur touche féminine, on revisite le café autrement. Les femmes sont assez pointues, assez méticuleuses et donc ça va permettre d'aller vers la qualité. Et le café c'est un peu comme la cuisine, donc elles vont mettre leur savoir-faire dans cette activité-là et puis il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes pour pouvoir révolutionner le secteur.
Votre plus beau souvenir depuis le lancement de votre entreprise, on sait que vous avez été prix d'excellence nationale, primé par l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez aussi été prix d'excellence au niveau des prix Marie-Laure d'Ivoire qui s'est déroulé en Italie. Alors, au relais de tous ces prix-là, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire j'ai atteint mon objectif?
J'ai pas encore atteint mon objectif parce qu'il y a d'autres étapes qui restent à franchir. Mais je suis heureuse dans la mesure où, au moment où je me lançais dans le café, je voulais changer certaines choses dans le café. Je voulais qu'on puisse parler du café ivoirien à l'international. Donc, étant une personne de la diaspora, quand je reçois le prix déjà Marie-Laure d'Ivoire, je suis très, très, très heureuse parce qu'on est plusieurs personnes dans la diaspora. Quand on remarque son travail et qu'on est récompensé pour le travail qu'on a fait, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Et à l'issue de ce prix-là, j'ai été lauréate du prix national d'excellence. Pour moi, c'est la plus haute distinction, en fait. Donc, ça veut dire que l'État du pays d'où je viens a reconnu ce que je fais à l'international. Et ça, c'est une récompense. Mais à côté de ça, j'ai obtenu aussi une médaille d'or avec un café que la Côte d'Ivoire d'Ivoire a mis au point. Et cette médaille d'or, je l'ai obtenue à l'international. Donc, toutes ces victoires, c'est vraiment une récompense du travail qui est fait dans le café. Et grâce au café, on arrive à avoir des médailles. Et c'est ça que je veux montrer aux gens aussi. Je veux leur dire que le café que vous sous-estimez, le café que vous banalisez entre griffes, ce café-là permet d'avoir des médailles, permet de faire parler de la Côte d'Ivoire, permet de mettre en lumière ces producteurs, ces femmes et ces hommes qui travaillent dans ce secteur-là. Donc je suis vraiment contente. Il y a encore des étapes à franchir, mais ça donne la motivation et le soutien nécessaire pour aller de l'avant. Donc je suis heureuse.
Est-ce qu'on peut avoir les défis que vous aimeriez relever pour les années à venir?
Déjà, c'est d'aller au-delà de ce que je suis en train de faire. Donc c'est un défi. Ça veut dire qu'on a atteint un niveau qui est assez élevé. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Parce que si on stagne, c'est comme si on reculait. Donc le premier défi, ça va être ça. Le deuxième défi, ça va être d'avoir ces coffee shops sur le sol ivoirien, mais aussi à l'étranger.
C'est quoi ces coffee shops?
Des coffee shops, c'est des endroits où on peut servir le café. Il faut qu'il y en ait partout. L'autre défi aussi, c'est que dans les institutions, dans les administrations, dans les restaurants, qu'on ne serve que du café ivoirien. Moi, je suis étonnée que j'aille à des cérémonies qui sont organisées par des administrations ivoiriennes et qu'on me serve du café étranger. Je dis non. Pour moi, dans ces institutions, dans ces administrations, on doit être très chauvin et on doit servir que des cafés ivoiriens. Qu'on puisse avoir des cérémonies où il n'y a que du café de Côte d'Ivoire, voilà ce que je veux. Que dans les chancelleries, que dans les ambassades, que partout à l'étranger, ce soit notre vitrine. Qu'on serve ce café-là dans tous les événements où la Côte d'Ivoire est présente, qu'il y ait un stand de café. Moi, je prêche pour le café parce que le café reste la deuxième boisson qu'on consomme le plus dans le monde. Et donc, à tous les événements, la Côte d'Ivoire doit avoir des stands de café. Donc, voilà mon défi et donc c'est ces étapes-là que j'ai envie de relever. Donc, je vais continuer à faire du bruit, je vais continuer à être présente là où il faut pour que justement d'ici 5 ans maximum qu'on puisse voir le café partout.
Maria Diongoka, merci.
Merci beaucoup, merci d'avoir donné la parole pour que le café continue de rayonner, pour que le café ivoirien continue de faire des émules. Merci.
L'entrevue, Radio de la Paix. Cet entretien a été proposé et réalisé par Jean-Mélène Bitti.